Bonjour, bonjour.
Grasse mat.
Elle marche la radio.
Je sais pas, on peut essayer.
Grasse mat, la matinale la plus tardive de France.
Salut à toutes et à tous, nous sommes en direct du parc de la Baume, Adieu le Fige, au festival Concertina, et c'est ici l'Ombre, une radio éphémère coproduite par plusieurs radios associatives. Je coanime cette émission avec Manon de Radio d'ici. Salut Manon.
Salut France.
Ici c'est France de Radio Saint-Fé. D'autres radios vont coanimer pendant 3 jours cette radio éphémère ici l'Ombre. Manon, tu veux en dire un mot ?
Alors, on a toi, ta radio, Radio Saint-Fé de Cray. On a aussi des membres de RDIWA, ADI, et il y a une partie du programme qui sera sûrement rediffusée. Radio des Boutières, Auchella rediffuse aussi certains extraits. Et puis, il y a Radio d'ici, Sud-Pila, Bassin Annonéen, dont je fais partie, qui va rediffuser l'entièreté de la programmation de Concertina, donc à partir de maintenant, vendredi 10h jusqu'à dimanche 14h, je crois, voilà, début d'après-midi.
Merci Manon. Concertina, donc rencontre estivale autour des enfermements, Adieu le Fi. Et pour présenter ce festival, on a en face de nous Clara Grisot, déléguée générale du festival. Bonjour Clara.
Bonjour.
Merci d'avoir pris un peu de ton temps qui doit être bien pris pour venir présenter le festival au micro. Peut-être avant de rentrer dans la thématique de cette année et puis le programme surtout qui est vraiment très très riche, hein, plus de 100 intervenants. C'est bien pour les auditeurs auditrices de redonner le contexte et ce en quoi consiste le festival, d'où il est né, il y a 6 ans je crois.
Première édition en 2021. Concertina, c'est une initiative de Bernard Bolz qui, avec ce projet-là, il arrive, on va dire, à un moment de son parcours professionnel et militant, après avoir passé du temps au sein de l'institution du contrôle général des lieux de privation de liberté, qui est une autorité administrative indépendante qui vient visiter des lieux de privation de liberté. Il est fondateur de l'Observatoire international des prisons. C'est un militant de toujours de la condition carcérale. Et au croisement de son activité professionnelle et militante, il se retrouve à rencontrer toutes sortes de personnes. Et il crée aussi Prison Insider, un site d'information sur les prisons à travers le monde. Et en fait, à Concertina, l'idée, c'est que toutes ces personnes-là, finalement, se rencontrent parfois dans des colloques ou alors dans des rassemblements militants ou alors sur des journées professionnelles. Mais ces personnes-là n'ont pas d'espace forcément pour se rencontrer, discuter, alors qu'ils travaillent finalement sur les mêmes sujets. Ils n'ont pas forcément les mêmes opinions, mais par contre, ils travaillent sur les mêmes sujets. Et l'idée, c'était de les regrouper dans un endroit, dans des conditions qui sont propices à la rencontre, donc dans un parc, avec des cigales qui chantent, et que ces personnes-là puissent se rencontrer, échanger pendant 3 jours. Et je pense que le pari, du coup, est réussi. Voilà, ça fait déjà 6 ans et ça fonctionne pas mal.
Avec plein de formats différents, on va y revenir. Il y a aussi une thématique chaque année, et cette année, donc, c'est Terre, au pluriel.
Oui, chaque année, on choisit un thème. Donc, on avait choisi sur les éditions précédentes silence, évasion, marge, l'année dernière, appétit. Et puis, cette année, le thème, c'est terre au pluriel. Et à chaque fois qu'on choisit un thème, on essaye de l'aborder selon 2 aspects. Un aspect, on va dire, plutôt lumineux, joyeux, qui est celui des terres d'innovation, des terres d'accueil, terre de la rencontre, le terrain commun, et puis une face plus sombre qui arrive assez rapidement quand on évoque évidemment les enfermements, qui sont les terres d'exil, terres de relégation, les terres spoliées, les terres que l'on fuit. Et donc il y a toutes ces questions-là qui sont présentes au sein de la programmation. Ouais.
Oui, parce que l'enfermement évidemment n'est pas réductible à la prison.
Alors, nous, effectivement, on se calque sur le domaine d'intervention du contrôle général des lieux de privation de liberté. Donc, ça comprend, au-delà de la prison, la rétention administrative, la garde à vue, la psychiatrie sous contrainte et l'enfermement des enfants. Voilà, donc ça, c'est les 4 autres thèmes en plus de la prison. Ouais.
Et donc plein de formats différents pour aborder toutes ces questions-là. Hier soir déjà, il y avait une projection de film.
J'allais parler des journées interprofessionnelles, mais oui, carrément. Hier, il y avait un film que je ne suis pas allée voir, mais qui s'appelait « Je ne sais pas où vous serez demain » d'Emmanuel Roy. Et qui est plutôt... donc c'est un médecin, c'est ça, mais qui bosse dans les CRA.
Ouais, c'est une médecin qui intervient en centre de rétention administrative. Et voilà, et puis une des phrases d'accroche qu'on a fait ressortir dans le programme, c'est je suis la médecin, je ne suis pas la police, et qui vient interroger en fait comment on peut aussi prodiguer du soin dans un endroit qui vise en fait à expulser des personnes vers leur pays d'origine. Et donc voilà, comment est-ce que dans un lieu qui est évidemment un lieu privatif de liberté, avec des personnes qui vont pas bien, qui ont toutes sortes de problématiques de santé aussi, comment est-ce qu'on peut les prendre en charge? Et donc on suit cette trajectoire, c'est un film documentaire qui est très très humain.
Oui, parce qu'il y a la santé physique, ils ont des réels problèmes de santé, mais aussi morale. On sent que la médecin insiste sur elle dit tout le temps, mais c'est normal que vous n'alliez pas bien, parce que dans cet endroit-là, on ne peut pas aller bien.
Et c'est d'ailleurs une thématique qui est, on va dire, qui traverse l'ensemble des lieux de privation de liberté. Hein. Le fait de toute façon d'enfermer un être humain, d'empêcher sa façon d'aller et venir, c'est pas uniquement ça, c'est aussi l'empêcher à la fois de se déplacer, d'avoir des contacts, d'avoir une vie sociale, d'avoir des occupations, d'avoir un horizon, un paysage, quelque chose à voir. Donc tout ça affecte évidemment la santé mentale de toute personne. Je veux dire, n'importe quelle personne autour de cette table qui se retrouverait incarcérée ou qui ferait 48 heures de garde à vue ou qui passerait 3 années en prison verrait évidemment sa santé mentale décliner. C'est quelque chose qui est prouvé. Et par ailleurs, les personnes qui se retrouvent dans ces endroits ont parfois des affections psychiques qui sont préexistantes et du coup qui sont en plus aggravées par leur privation de liberté.
Et hier, effectivement, Manon, avant le début du festival qui commence, qui avait la projection hier soir, mais qui va commencer aujourd'hui pour l'ouverture au grand public, mais il y avait effectivement les journées interprofessionnelles. C'est la troisième année que vous faites ça. Manon, tu voulais en parler?
Oui, bah, tu nous disais hors antenne que c'était pas ton domaine de prédilection, mais quand même, juste pour revenir un peu sur la genèse de ce projet, j'imagine que c'est en rapport avec ce que tu nous racontais sur les débuts du festival, d'essayer que les personnes qui travaillent dans ces milieux-là se rencontrent et discutent. Voilà, je me demandais comment ça se passait, qui pouvait y participer, en sachant que là, du coup, c'était hier après-midi et ce matin jusqu'à 11h. Voilà, on était assez curieuses de savoir en quoi ça consistait exactement.
Alors, quand je dis que c'est pas mon domaine de prédilection, c'est surtout qu'il y a deux personnes en fait qui sont à la manœuvre et qui créent en fait ces deux demi-journées. Et donc il y a une forme de délégation, mais comme il y a une délégation sur toute autre sorte de sujet, la cantine, le bar, enfin voilà. Et donc sur la journée interprofessionnelle, l'idée c'était de proposer aussi un temps de formation et de rencontre pour des professionnels en activité. C'est une journée qui fait le pari de mélanger des personnes qui interviennent dans des lieux privatifs de liberté, qui viennent de la santé, du social, de la culture. C'est la troisième édition et depuis l'année dernière, on a décidé de proposer un format un peu particulier sur deux demi-journées pour qu'il reste la soirée, qu'ils puissent assister au film du jeudi soir. Et là, quand ils vont sortir aussi de leur journée interprofessionnelle, qu'ils puissent assister au grand entretien. Donc l'idée, c'était que les professionnels, sur leur temps de travail, s'ils viennent en fait le jeudi, ben, en fait ils repartent et du coup ils n'assistent pas aux rencontres. Et l'idée, ils étaient là d'ailleurs à l'apéritif des bénévoles hier soir, l'idée c'est que tout ce petit monde puisse se mélanger, mais ça reste aussi dans l'esprit des rencontres, c'est-à-dire que les intervenants ils viennent, on les invite pas à juste venir et faire leur intervention. On veut qu'ils restent et on veut qu'ils mangent, on mange tous ensemble, on veut qu'ils échangent. Et c'est pareil avec les professionnels et entre eux pour pouvoir les amener peut-être à développer des projets en commun. Voilà, donc ça c'est le pari. Ça c'est le pari, ouais.
Et on espère qu'ils vont rester, parce qu'il y a de quoi faire. Donc je peux donner un rapide coup d'œil sur la diversité des propositions. 9 ateliers dans le festival Concertina qui commence aujourd'hui. 9 ateliers, 7 tables rondes, 4 conférences, 3 grands entretiens, une échappée belle, un studio de radio, bon c'est nous, 3 films, 3 fabriques, des espaces de formation, 2 moments sportifs même, 4 lectures ou dialogues, un spectacle, un concert, 6 expositions, une journée interprofessionnelle, on vient d'en parler. Donc ça fait quand même beaucoup et tout ça gratuit.
Exactement, 50 événements en 2 jours et demi. Évidemment la concurrence est rude, il y a souvent 3-4 événements, on aime bien créer la frustration chez nos spectateurs et spectatrices, mais faut dire, enfin nos festivaliers et festivalières, mais il faut dire qu'ils sont de plus en plus nombreux, donc il faut forcément créer la frustration et le fait que ce soit gratuit, c'est vraiment un pari qui est important. Le fait est que la question des enfermements, c'est quand même une question qui est marginalisée dans le débat public, dont on entend peu parler, ou souvent sous le coup de faits divers, d'annonces politiques. Nous, on fait le pari qu'on peut trouver un terrain d'entente à cet endroit-là pour... c'est un vrai problème social, je veux dire, il y a une augmentation du nombre de personnes détenues, 700 000 personnes qui passent en garde à vue chaque année, 88 000 personnes incarcérées, c'est du jamais vu. C'est une question sociale qui doit nous mobiliser toutes et tous, et donc c'est le pari de l'accessibilité de faire ça. Et tout le monde, ça peut sembler technique, mais tout le monde est invité à venir participer, à venir assister à un événement ou deux ou trois. Et puis certaines personnes n'y connaissaient rien, et puis finalement ces personnes reviennent, et même certaines font partie de nos bénévoles, des hébergeurs, hébergeuses. Donc on peut aussi, c'est une façon d'intéresser le grand public à ces questions-là.
Hein. Gratuité qui repose quand même beaucoup justement sur cette mobilisation des bénévoles. Je crois qu'il y a sur plus de 100 intervenants hébergés cette année, il y a 70 bénévoles qui sont mobilisés pour les héberger, c'est ça?
Exactement, ouais. 70 personnes qui ouvrent les portes de leur logis pour accueillir ces intervenants et intervenantes. Et aussi on va dire le contrat avec les hébergeurs et hébergeuses, c'est qu'ils partagent le petit-déj avec les intervenants et intervenantes. Donc c'est aussi une autre manière de créer de la rencontre. Et puis ils ne sont pas obligés de parler de prison ou de rétention administrative, mais c'est aussi une façon de quand on est en train de, je sais pas, de couper du pain et puis de beurrer une tartine avec un magistrat honoraire, c'est pas tous les jours, mais ça permet aussi de créer la rencontre. Et enfin ce dispositif là il se retrouve aussi sur une forme de simplicité et d'authenticité quand on se retrouve à faire la vaisselle, parce qu'évidemment on fait tous une auto-vaisselle une fois qu'on a mangé, et puis qu'on est à côté d'un avocat, d'un médecin, c'est forcément, ça casse un certain nombre de barrières.
On va rentrer dans le détail un petit peu du programme, Manon, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, carrément, j'avais envie d'avoir une vue d'ensemble sur comment on crée cette programmation. Est-ce qu'on part des thématiques qu'on a envie de voir abordées? Est-ce qu'on part de comment faire pour que justement ça parle à plein de mondes différents? Est-ce qu'il y a des formats où on se dit ok, on veut un tel nombre d'ateliers, de films, voilà. Comment on structure et on imagine cette programmation?
Alors c'est un travail de longue haleine qui commence, on va dire, en septembre. Il y a un groupe de programmation, donc ce sont des bénévoles qui ont vraiment des casquettes et des regards différents, et c'est ça qui est absolument passionnant. C'est-à-dire que si moi ça fait 15 ans que je travaille sur les questions liées à la prison, le fait que dans ce groupe programmation et une personne qui soit céramiste, une personne qui est documentariste, et puis une personne qui est psychiatre. Forcément, tous ces aspects-là se mélangent. Et après, on a une ligne directrice qui est celui de notre thème, où là, on se fait une sorte de brainstorming avec un conseil de programmation, avec des personnes qui ne font pas partie de Concertina, mais qu'on invite pour la pluralité, la diversité de leur regard. Donc là, par exemple, sur Terre... On avait invité une géographe, un président d'un festival de théâtre qui est attentif au, enfin qui programme des artistes en exil, une journaliste spécialisée sur les questions prison-justice, un linguiste. Et voilà, donc on mange ensemble et puis on fait et puis on élabore un peu ensemble, voilà, quelles sont un peu les grandes lignes de force. À partir de là, on reprend ça. Et puis déjà, on commence à voir un peu dans quelle direction on veut aller. Et on se dit, ah, on peut pas parler de la Terre sans se dire que il va falloir forcément qu'on parle du dérèglement climatique. Est-ce qu'on va en parler avec les centres de rétention administrative? Est-ce qu'on va parler des migrations climatiques, par exemple, des réfugiés climatiques? Est-ce qu'on va parler de la chaleur des conditions de détention dans les prisons? Ensuite, on se dit, bah, forcément, il va y avoir un accent certainement sur la migration. On se dit, on peut pas être à Diolfi, terre de potier, sans parler de la céramique, en parlant de la terre. Et donc déjà, ça commence un peu à dessiner quelque chose. Et ensuite, on a aussi des objectifs, à savoir une pluridisciplinarité. On veut pas que ce soit que des avocats ou que des militants. Et donc, on essaye d'équilibrer à chaque fois les intervenantes qu'on programme. Pareil, on veut qu'il n'y ait pas 80% de la programmation qui soit dédiée aux prisons. Mais donc du coup, on a ces indicateurs pour se dire, ah là, on est un peu faible sur la question de la garde à vue. Voilà. Et donc à chaque fois, très concrètement, on a des tableaux Excel avec des pourcentages. Et puis voilà, alors on n'est pas complètement rigide, mais en tout cas, voilà, on essaye d'équilibrer notre programmation comme ça.
Et alors, ça donne des choses hyper variées, intéressantes. Pour donner quelques exemples, on ne pourra pas parler de tout, mais de comment vous avez tissé ce lien entre terre et enfermement. Eh bien, tu parlais justement de réchauffement climatique, de dérèglement climatique. Il y a une table ronde, donc, samedi, qui s'intitule « Défendre la terre, finir en prison », et qui va être autour de l'enfermement de ce qu'on appelle désormais des éco-terroristes. Mmh.
Oui, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué pour le coup en mai, le 19 mai, au cinéma de Bourdeau. On avait organisé un extra avec la projection du film Soulèvement de Thomas Lacoste. Et puis on avait reçu Laura Abramovitch, qui est avocate en droit pénal de l'environnement. Et voilà, qui apportait son regard sur ces questions-là. Donc là, c'est intéressant parce que à la fois on va mélanger une personne qui est active dans les réseaux militants des soulèvements de la terre, mais on a aussi, une avocate.
Oui, Laurence Roch.
Laurence Roch, ouais. Oui, syndicat des avocats de France. Voilà, donc c'est hyper intéressant d'avoir aussi cet aspect militant, le côté droit. Enfin, voilà, donc on essaye à chaque fois d'aborder ces questions en faisant se confronter différents regards. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord une fois de plus.
Et c'est un atelier par exemple sur la thématique des îles qui ont servi de prison. Donc là aussi, comment la terre a pu servir géographiquement dans le prisonnement. Et puis en grande résonance avec l'actualité, la terre nous est étroite. C'est un autre atelier cette fois qui aura lieu samedi aussi à 14h30. Et donc là, c'est là on va être sur quelque chose de beaucoup plus lié avec tous les conflits au Moyen-Orient.
Ouais.
On parle de Jenin.
Ça va être la question aussi de la santé mentale et notamment des enfants qui sont dans les territoires occupés et les enfants à Gaza aussi qui avec une pédopsychiatre qui constate que les enfants ne font plus que dessiner la guerre, ce ne sont que plus que leurs images. Voilà, donc ce sera certainement un atelier assez sensible. Ouais.
Qui sera notamment avec Stéphanie Latabdala, qui est la présidente de cette édition de Concertina.
Oui.
Qui sera interviewée demain dans la séquence Happy Hour de la radio par Cécilia, donc entre 17 et 18 heures, et qui fait une conférence d'ouverture demain sous le chapiteau à 18h30.
Conférence d'ouverture, elle fera également la clôture. Et voilà, comme c'est la présidente d'édition, et ben en fait vous la verrez systématiquement sur un peu l'ensemble du festival. L'idée c'est qu'elle puisse un peu papillonner, assister aux différents événements, échanger avec les festivaliers, festivalières, les intervenants, intervenantes. Et puis on aura son regard. Et elle est intéressante parce qu'elle est. Enfin oui, évidemment qu'elle est intéressante. Sinon, ce ne serait pas notre présidente. Mais elle touche aussi à plusieurs disciplines. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois elle fait de, aussi de l'ethnologie, en même temps elle est historienne. Et voilà, nous on attache beaucoup d'importance à cette interdisciplinarité, donc c'était intéressant d'avoir son regard.
Effectivement, oui, elle est historienne politiste, directrice de recherche au CNRS, et elle enseigne à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, elle va. Comment vous l'avez choisie d'ailleurs, cette année? Enfin, ou peut-être que tu n'as pas la réponse comme ça, mais.
C'est le fruit d'un choix collectif. On réfléchit à plusieurs personnes. Il y a plusieurs noms qui sortent. Et puis on vote avec le groupe de programmation, le conseil d'administration. Et on essaye qu'il y ait une adéquation entre le thème de l'année et la personne à qui on confie cette présidence.
J'ai un autre format qui me vient, là, c'est la conférence de 10h30, ce sera aussi demain samedi, sur la figure du zombie. Alors là, c'est encore autre chose, parce que bon, il y a un lien avec la Terre, hein, enterré vivant.
Oui. En fait, au début, on aime bien faire des échappées belles, c'est-à-dire, à partir du thème de l'édition, faire un petit pas de côté. Quand on avait consacré une édition à évasion, ben, on avait invité une personne pour nous parler de l'évasion fiscale. Quand on avait fait une année autour de silence, on avait invité un neuroscientifique à nous parler des bienfaits du silence sur la cognition et l'équilibre neuronal. Et en fait, je suis allé voir l'exposition Zombie à la Confluence à Lyon. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, Terre. Puis du coup, je pensais à souterrain, je pensais à des mineurs de fond, je pensais de dire comment est-ce qu'on peut se décaler à un moment donné. Et je me suis dit, ce serait quand même vraiment hyper intéressant. Et il a dit oui tout de suite.
Il se trouve qu'il y a quand même cette thématique de l'enfermement, parce que c'est une âme
c'est
enfermée
ça.
Dans.
Ouais,
dans
un et, en, et du coup, on s'est dit, mais en fait, c'est pas une échappée belle, parce que ça a tout à voir aussi avec des façons de faire justice. Enfin, il nous explicitera tout ça, mais comment c'est aussi en lien avec la colonisation. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, mais c'est pas du tout une échappée belle. On est dans notre thème, alors on est un peu décalé, mais on est vraiment dans notre thème, ouais.
Et il y aura du sport aussi, tôt le matin pour contrer la canicule.
Ouais, 8h30, franchement, j'invite tout le monde à y venir parce qu'ils sont ils sont drôles.
C'est quoi du coup? C'est du foot?
Non, c'est des footballeurs d'une association qui s'appelle la Balle aux prisonniers. Alors eux, ils ont été détenus. Et ils pratiquent le foot et ils retournent faire des interventions footballistiques dans les prisons en Belgique. Et ça fait déjà plusieurs fois qu'ils viennent à Concertina. Ils ont organisé aussi un temps des matchs de foot avec le FC 540, qui est le football club de Diolfi. Et puis là, cette année, ils sont sur une proposition un peu différente. Donc, réveil sportif samedi matin, dimanche matin à 8h30. Ce sera pas non plus hyper énervé parce que on connaît aussi déjà c'est le matin. Ensuite, il fait quand même un peu chaud, donc voilà, ce sera un peu histoire de se mettre en mouvement. Et surtout, on va leur confier d'aller assister à un certain nombre d'événements. Et ils seront là à la clôture. Et donc la clôture sera faite par Stéphanie Latabdallah et aussi par certains des footballeurs de la BAP pour nous dire ce qu'ils ont retenu des événements auxquels ils ont assisté.
Merci beaucoup Clara, donc déléguée générale pour le festival Concertina qui aura donc lieu jusqu'à dimanche, donc ce vendredi à dimanche, on est quel jour? Du 26 juin au 28
ouais.
Juin. Merci Manon. Tu voulais poser une dernière question?
Non, je crois que c'est bon. On va pouvoir faire une petite transition musicale. Je regarde Quentin à la régie avec une chanson de Brassens qui s'appelle « Les oiseaux de passage ». Voilà, je trouve que Brassens n'est pas toujours très pertinent a posteriori. Et il y a des petites chansons que je trouve un peu grinch maintenant, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Voilà, petite transition musicale.
Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs c'est là que je suis né. Je m'apprête de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous ont ainsi fait, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux, ce canard n'a qu'un bec, et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant ô les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont, et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut que, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut que, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Vous êtes en direct de Ici l'Ombre, radio éphémère coproduite par plusieurs radios associatives sur le parc, au parc La Baume à Dieulefi pour le festival Concertina, festival des enfermements. Et j'en profite pour remercier Quentin à la technique, Quentin de Radio d'ici, et puis Morgan qui ont tous les deux mis à disposition leur studio. Un petit mot pour Manon pour redire un peu ce qui va se passer au niveau radio sur ce festival.
Eh bien oui, on a une petite grille de programmation du coup entre ce matin et dimanche début d'après-midi. Donc tous les matins de 10h à 11h, ce sera la grâce matinale comme présentement. Ensuite, de 12h30 à 13h, on a ce qu'on a appelé les grands entretiens. Donc c'est Laurence qui discute avec une personne sur une thématique, une personne qui vient sur Concertina pour présenter ou parler d'un sujet. Ensuite, le vendredi, donc aujourd'hui, on a une émission qui s'appelle Central Park de 14h30 à 15h30, qui est animée par Marc et qui là sera aussi, les deux émissions seront sur le parc. Voilà. Nous, on est un peu à l'écart là, notre studio, mais ce sera en plein milieu du parc de la Baume. Ensuite, on a Bruno qui fait un super mix de 15h30 à 16h. Donc ça, c'est vendredi et samedi. Et vendredi et samedi, on a aussi le happy hour de 17h à 18h. Voilà, avec une petite séquence bar ce soir. Donc samedi, toujours la grâce mat, on a Dialogue à la croisée des chemins de 11h à midi, qui sera seulement demain. Les petits yo-yo, qui est une émission qui a été montée par Clara, qui était là juste avant avec des élèves de l'école de Boudreau, je crois.
Bordeaux,
ouais, plutôt. Bordeaux ou quelque chose comme ça, quoi.
Bordeaux, c'est plus près.
Ouais. Et donc le dimanche, par contre, ça s'arrêtera après le grand entretien à 13h. Voilà, et puis on a un nouvel invité, je te laisse le présenter, Franz.
Oui, c'est Cédric Duroux. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Merci d'être venu à cette matinale.
Merci pour votre invitation.
Tu assures les relations presse pour le festival Concertina.
Tout à fait.
Je crois que tu es content cette année.
Oui, on est heureux cette année parce que en fait, c'est un travail qui se construit un peu sur plusieurs années, de faire connaître un festival comme celui-ci, puisque c'est ma mission auprès de la presse nationale. Et il faut un certain temps pour convaincre les journalistes de venir jusqu'à Dieulefi, assister au festival pendant plusieurs jours. Et on essaie d'obtenir quelques papiers en amont, quelques tribunes de certains des intervenants. Et cette année, là, j'étais justement en train de regarder, on a une tribune d'une intervenante qui parle de la canicule en prison. Hélène Noguès-Brunet dans Libération notamment, et c'est important de montrer aussi non seulement à quoi ressemble le festival, mais que c'est aussi un endroit où se produisent des idées, où se partagent des idées. Donc la mission presse, au-delà de faire connaître le festival, c'est aussi de faire rayonner ce qui s'y dit, parce qu'il se dit des choses très importantes ici. Et c'est pour ça qu'on se réjouissait aussi d'un autre papier qui vient de paraître dans le Nouvel Obs, qui est un grand entretien avec Abdel qui va intervenir au festival, et qui souligne justement à la fin de l'entretien qu'il est très content de participer à Concertina parce que c'est précisément un endroit où la parole des détenus ou des anciens détenus n'est pas une parole de seconde main et qu'on peut venir échanger directement avec ces personnes qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer dans d'autres contextes. Et ce qui évite d'être caricaturé comme souvent dans d'autres, dans des médias notamment.
Et comment, cette année je crois qu'effectivement il y aura peut-être aussi un journaliste du Monde.
Il y a une journaliste du Monde, tout à fait, Anne Chemin, qui vient assister au festival. Et Eugénie Barbeza, une journaliste de l'Humanité qui est venue l'an dernier, qui a beaucoup aimé le festival, qui avait déjà fait un super papier à propos du festival et qui revient cette année avec un photographe pour faire un reportage dans le magazine de l'UMA.
Donc ça commence à prendre. Et est-ce que quand tu as commencé à faire ce travail-là pour Concertina, c'était quoi les retours des journalistes? Est-ce qu'ils étaient intéressés? Est-ce qu'il a fallu du temps pour les mobiliser?
Alors il y a toujours eu... c'est un festival qui est suffisamment original pour intéresser assez rapidement. Quand on raconte qu'il y a un festival entièrement dédié aux enfermements et à la prison, au départ on regarde avec des grands yeux, on peut faire un festival sur cette question. Et donc l'intérêt a été là depuis le début. Après, de là à déclencher une visite, venir en fin juin jusqu'à Dieulefi, passer du temps ici, etc., ça c'est encore c'est une marge de progression mais en tout cas on a progressé sur cette question. Mais il y a toujours eu quand même cet intérêt, parce que c'est vrai que c'est un festival assez inédit, et je me permets de le dire parce que je suis en fait mon véritable métier, normalement, c'est d'être plutôt programmateur de festivals, de rencontres littéraires, de festivals d'idées, etc. Et c'est vrai que ce modèle-là, sur ce thème-là, je ne connais pas d'autres événements comme Concertina.
Alors justement, c'est aussi ça dont j'aurais voulu que tu nous parles un peu, c'est que comme tu viens de le dire, ton métier principal n'est pas les relations presse, tu as choisi de le faire pour quelques festivals qui te tiennent à cœur, dont Concertina, mais c'est de... assurer la programmation culturelle dans des rencontres d'idées. Est-ce que tu peux juste, en quelques mots, expliquer aux auditeurs et auditrices en quoi consiste ce métier-là? Et après, du coup, tu auras ce regard sur ce festival de Concertina, en quoi il est si intéressant aujourd'hui.
Alors, mon métier de programmateur, que je fais avec ma collègue Nancy Moreno-Pinto, le métier de programmateur, ça peut être... En général, on fait la programmation des autres. C'est-à-dire que par exemple, depuis 3 ans, on programme une partie des débats du Festival du Livre de Paris. Donc on programme 75 débats pendant le festival qui a lieu au Grand Palais, avec les auteurs de fiction, non-fiction et poésie. Donc ça consiste à rencontrer la plupart des éditeurs qui participent au festival, recevoir des piles de livres avec lesquels on peut se faire des cabanes, et choisir en fait qui sont les auteurs à inviter à prendre la parole sur les différentes scènes du festival. Donc on lit les ouvrages des auteurs, on choisit les thématiques, on voit les thématiques qui se dessinent dans la quantité de livres qu'on reçoit. Et notre rôle après, c'est d'essayer de voir qui pourrait parler avec qui sur tel ou tel thème, et d'essayer d'imaginer ce que ça pourrait donner. et d'essayer de, voilà, de fabriquer de la pensée aussi comme ça.
Et donc du débat.
Et du débat. Donc ça, on le fait pour le Festival du Livre de Paris. On a un autre festival à Lyon qui s'appelle à l'École de l'Anthropocène depuis 8 ans sur les questions relatives à l'environnement, au climat, etc. Et puis on a pu, c'est comme ça que j'ai rencontré Bernard Bosch d'ailleurs.
À l'origine du Festival Concertina, comme le rappelait Clara tout à l'heure.
Exactement. J'ai rencontré Bernard quand le Musée des Confluences à Lyon a fait son expo sur les prisons. Et que à l'époque, il n'avait pas de programmateur en interne pour assurer une programmation en écho à l'exposition. Donc, ils ont fait appel à nous, en fait, pour programmer un an de rencontres, débats, ateliers sur le thème des prisons pour accompagner l'expo. Et le tout premier invité qu'on a invité pour un grand entretien, c'était Bernard, qui est venu parler de son parcours, etc. Il n'avait pas encore créé Concertina à l'époque, mais à chaque fois que je voyais Bernard, il me disait, tu sais, j'aimerais bien créer un festival sur la question des prisons. Jusqu'au jour où il m'a appelé en me disant, écoute, le festival existe, est-ce que on pourrait éventuellement travailler ensemble? Et sa demande initiale, effectivement, était de m'occuper des relations presse. Ce que en général je dis non, puisque c'est pas du tout le cœur de métier de notre petite agence. Nous, on est plutôt sur la création du contenu, donner la forme à l'événement, etc. Après, par extension, on a souvent été en contact avec des journalistes, puisqu'on a souvent défendu notre programmation ou nos programmations pour présenter les programmes qu'on avait fait. Mais j'étais déjà intrigué par le thème du festival, et puis avoir assisté au festival pendant plusieurs années m'a convaincu que c'était vraiment là que les choses se jouaient, puisque je sais pas si on peut se dire qu'on s'en est parlé hier.
Si, voilà, c'est ça que je voulais te poser comme question, c'est que en tant que programmateur culturel sur d'autres festivals, tu as pu observer ces dernières années une difficulté croissante à faire se rencontrer des gens qui ne sont pas du même bord, qui ne sont pas du même camp, qui ne sont pas d'accord et qui finalement n'acceptent plus de figurer à l'affiche d'un même festival.
Ça, c'est un changement que... Je dirais que ces 10 dernières années, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la programmation d'événements culturels maintenant. Et je dirais que ces 10 dernières années, et ça s'est aggravé ces 5 dernières années, c'est devenu très difficile de mettre autour de la même table des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc créer du débat, en fait, c'est devenu très très difficile. Et ça va très loin, c'est-à-dire que les gens... non seulement refusent de débattre avec telle ou telle personne avec laquelle ils ne sont pas d'accord, mais ça va jusqu'à ne pas vouloir apparaître dans le programme où il y a tel invité sur un autre sujet parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec cet invité et qu'on ne supporte même pas l'idée d'apparaître dans un même programme et encore moins sur une photo de la scène avec telle ou telle personne, puisqu'on est dans une époque assez difficile où il y a clairement une dérive avec les réseaux sociaux qui fait que si vous acceptez de parler avec quelqu'un avec qui vous n'êtes absolument pas d'accord, il suffit qu'une personne du public poste une photo de vous en train de discuter avec cette personne et tout à coup vous êtes contaminé d'une certaine façon et on vous accuse de collaborer avec l'ennemi, etc. Enfin, ça va très loin, très vite. Et l'effet pervers de cette chose-là, c'est que je constate qu'on a vraiment de plus en plus de mal à convaincre les gens de venir se parler. Et ça me terrifie un peu, parce que je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour la santé du débat public et de nos démocraties. Et en revanche, pour ne pas faire un tableau complètement noir, c'est encore possible dans des lieux comme Concertina. Et c'est bien la raison pour laquelle on accepte avec plaisir de s'occuper des relations presse pour ce festival, pour le faire connaître, parce que je ne sais pas à quoi tient la recette exactement. Mais je sais que je raconte souvent mon arrivée au festival il y a 2 ans, je crois. C'était quand on était entre les deux tours des élections. C'était une période assez difficile pour tout le monde. Et je me souviens que j'ai fait le trajet Montélimar-Dieulefi avec dans la voiture Jean Lebrun, l'historien qui avec son émission d'histoire... sur France Inter, si je ne dis pas de bêtises, qui venait présenter une conférence sur les bagnes d'enfants. À ma droite, un certain Yacine qui se présente immédiatement, qui me raconte qu'il a passé, je crois, 28 ans en prison ou 25 ans, et qui me raconte comment il s'est fait une culture en prison en écoutant systématiquement les cassettes audio de son frère, il écoutait en fait les. À chaque fois, il s'était donné une règle. À chaque fois qu'il entendait le nom d'un poète ou d'un auteur dans une chanson, il allait lire tous les livres qu'il trouvait de cet auteur en question. Et en fait, pendant des dizaines d'années, pour le coup, il s'est fabriqué une culture comme ça, de manière très très personnelle. Et aujourd'hui, il travaille pour l'administration pénitentiaire, à essayer d'apporter la culture en prison, de monter des expos, etc. Et j'arrive à Concertina et Bernard Bolz me dit, tiens, discute avec ce monsieur. Le monsieur en question était à 25 ans, était gardien de prison. Et quand je discute avec lui pour savoir pourquoi il est devenu gardien de prison, il me répond que pour lui, il a toujours voulu travailler dans le social, et que ce qui est une réponse assez inattendue. Et en fait, je rencontre quelqu'un qui fait ce métier avec beaucoup d'intérêt, avec passion, dans des conditions très très difficiles. Et je me suis dit, à quel endroit, en fait, en France, dans un festival d'idées, on peut encore retrouver autour de la même table, même littéralement en train de boire des coups le soir, quelqu'un qui a passé presque 30 ans de sa vie en prison, quelqu'un qui a 25 ans qui veut être gardien de prison, des membres de l'administration pénitentiaire, des romanciers, des sociologues, etc.
Et qui ne sont pas forcément d'accord, c'est ça qui est important de le dire.
Ils ne sont pas d'accord du
tout. Ils n'ont pas été cooptés ou choisis parce qu'ils pensaient tous la même chose.
Pas
ils ont vraiment des désaccords sur certains sujets.
Exactement, exactement. Et ils viennent se le dire ici, en public, et c'est le principe du débat, de ne pas être d'accord, de venir exposer ses arguments, etc., dans le respect. Alors parfois, les débats peuvent être vifs et sur des sujets sensibles. Mais ce sont des débats qui ont lieu, et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est ce que je trouve vraiment très très précieux dans ce festival, d'avoir réussi à fabriquer une atmosphère dans laquelle les gens se sentent suffisamment en confiance pour pouvoir dire « voilà mon point de vue ». Je sais que dans la salle, il y a des gens qui ne seront pas du tout d'accord, mais en fait, on ne se fait pas jeter des chaussures sur la tête quand on dit des choses, et vraiment c'est précieux, parce que je pense que c'est à la base de ce qui nous permet de faire société.
Ben, merci beaucoup Cédric Duroux de nous avoir partagé cette inquiétude et en même temps ce petit coin de bonheur. À quoi tient cette recette miracle, Dieu le fit, peut-être comme le disait Clara tout à l'heure, c'est peut-être les cigales, le soleil de Dieu le fit, surtout ce grand parc de la Baume. C'est vrai que parler enfermement dans un parc ouvert, c'est quand même plus tranquille, on peut le dire. Manon, tu voulais peut-être présenter la prochaine musique, ou une
ouais.
Dernière question à Cédric.
Eh ben non, merci Cédric pour ces réponses, pour ton point de vue là-dessus. Et puis on va faire une petite pause musicale avec la reine du rail qui s'appelle Sheikha, je le prononce sûrement mal, Rimiti, et sa chanson Nour.
I'm gonna
au parc de la Baume de Dieulfi pour les rencontres concertina autour de l'enfermement. Et ben, je vais laisser maintenant la parole à Tiphaine, Tiphaine qui a fait un stage à Radio d'ici en septembre et qui revient pour filer un coup de main sur ces rencontres et qui va réaliser une petite interview de Jean-Luc. Salut Tiphaine déjà.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme l'a dit Manon, on se retrouve aujourd'hui pour interviewer Jean-Luc qui est vidéaste au Festival de Concertina. Donc, est-ce que je peux te demander déjà si tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton rôle au sein de ce festival ?
Oui, bonjour tout le monde. Donc, c'est Jean-Luc Rabhi. Ça doit être ma quatrième année à Concertina, en fait. L'équipe que je connais depuis pas mal d'années par le réseau lyonnais. Et en fait, comme je suis vidéaste, par une copine m'a dit « Tiens, mais il cherche du monde ». Je me suis dit « Ben, c'est l'occasion ». Et du coup, j'ai réussi à me libérer, parce que ça ne dure que 3 jours. Et ce que je trouve génial, c'est que pour toutes les personnes qui présentent pendant le festival n'ont pas l'occasion de voir tout ce qui se passe, l'idée de filmer, de podcaster pas mal de choses permet vraiment à tout un chacun et chacune de voir tout ce qui se passe à la maison, tranquille, chez soi, et ainsi de suite, ou pendant les rencontres, parce qu'on ne peut pas tout voir en même temps. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très chouette, je trouve.
C'est quoi l'objectif des films que toi tu réalises et des images que tu choisis de filmer ?
Alors dans le cadre de Concertina, il y a toutes les petites choses qu'on ne peut pas tellement rater, tout ce qui se passe sous le chapiteau. Il y a les intervenantes et les intervenants qui en fait viennent causer une demi-heure, une heure, échanger avec le public, tout ça. Donc on est en procédé un peu classique, une caméra qui filme les interventions, et une autre caméra pour les contre-champs, pour les questions, commentaires publics, tout ça. Et ensuite, on a la possibilité, bien sûr, chacun, chacune, de faire des images d'ambiance, d'autres événements qui se passent sur les différents lieux, dans le cadre de Concertina à Dieulfi. Et pour ça, on a vraiment la liberté qu'on souhaite avoir pour faire un petit peu ce qu'on veut, présenter les choses avec notre regard, et ainsi de suite. Voilà.
Ok, super. Et est-ce que tu pourrais un peu m'expliquer comment tu fais pour faire des choix entre les scènes et les ateliers que tu vas choisir de filmer ? Et si tu sais un peu plus quel choix tu vas faire et quels critères ils vont guider ces choix ?
Dans l'idéal, il y a plein de choses super intéressantes. Et comme on n'est pas assez nombreux, on est souvent que deux. Dans l'idéal, c'est bien quand on est 3 ou 4, on peut se répartir en 2 équipes pour faire des choses sur les différents lieux. Mais le problème, c'est qu'on n'est souvent pas assez nombreux. Et ça limite un petit peu aux choses que Concertina a vraiment envie de mettre en avant. Donc ce qui se passe sous le chapiteau, notamment les grands entretiens, les conférences, tout ça. Mais quand on a le choix, évidemment, c'est bien d'avoir toutes les petites choses dont on parle un peu moins, mais qui se passent aussi à Concertina dans le cadre des rencontres.
Ok, super. Et est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu qu'est-ce que toi tu vas essayer de mettre en avant à travers tes images ?
Cette année, je ne sais pas encore, hormis les captations qu'on va faire. Je ne sais pas, pour la simple raison que ça va déjà nous prendre pas mal de temps d'être sur les captations. Et comme on est 4, il faut qu'on se rencontre et qu'on puisse en discuter pour voir qui va aller où et faire quoi, et ainsi de suite. Mais je ne m'inquiète pas, on va réussir à faire des choses.
Et c'est quoi l'importance pour toi des images dans un festival comme Concertina ?
D'être au plus juste de ce qui se passe. Alors, sur toutes les personnes, c'est compliqué d'avoir un point de vue général, mais en tout cas, le teaser que j'ai monté l'an dernier, essayer de restituer un petit peu la réalité de tout ce qui se passe. Mais c'est jamais simple, en 3-4 minutes, d'arriver à raconter une histoire sur des rencontres qui durent 3 jours.
Évidemment. Est-ce que tu penses que le documentaire, il peut contribuer à changer le regard du public sur la question de l'enfermement et des personnes qui sont détenues ?
Vaste question, je pense, ouais. Et il y a probablement déjà des films qui font ça très bien. Mais je pense qu'il en faut davantage, il n'y en a jamais assez.
Est-ce que toi, tu viens parce que voilà, c'était l'occasion du bouche à oreille, ou est-ce que tu as aussi un intérêt sur ces thématiques-là ?
il y a forcément un intérêt, ouais. Mais après, j'en attends pas forcément quelque chose de, comment dire, un renvoi d'ascenseur. C'est-à-dire qu'en fait, la thématique des violences, par exemple, m'intéresse beaucoup. Et en fait, les thématiques qu'aborde Concertina touchent quand même de bien près les violences en général et celles de l'enfermement en particulier. Mmh. Donc voilà, je suis pas non plus là par hasard ou pour rien. C'est que ça m'intéresse, évidemment.
Et est-ce qu'il y a des moments marquants que tu as pu filmer, bon, peut-être pas cette année, mais lors des éditions précédentes ?
Ouais. Il y a Jean-Marie Delarue avec François Saint-Pierre l'an dernier, qui m'avait beaucoup touché dans l'espèce de ping-pong qu'ils faisaient l'un et l'autre sous le chapiteau pendant une demi-heure, une heure. J'ai beaucoup aimé. Il y a des moments particuliers dans chacun des rendez-vous avec le public. Là, je ne les ai pas en tête, mais comme il y a beaucoup de podcasts et beaucoup de vidéos en ligne, moi j'encourage vraiment les gens à voir, enfin, quand ils auront l'occasion et le temps, de visionner tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé sur les rencontres. Parce que c'est pas évident de les résumer comme ça en quelques minutes. Il faut vraiment se baigner, se plonger dedans pour se faire une idée, je pense.
Bah super, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps que tu nous as accordé. Et on a hâte de voir ces images.
Fin d'année, je pense qu'elles seront en ligne, pas d'avant.
Merci, Tiffaine. On va faire une petite virgule musicale lancée par Quentin pour permettre à Jean-Luc de sortir de son micro et d'aller commencer la vidéo. Merci.
Merci.
On va de ci, de là, mais on reste à l'ombre. Ici l'ombre, la radio qui scie les barreaux pour couvrir les rencontres Concertina.
Et on est toujours à Concertina. Alors, quand on a commencé à préparer cette grasse matinale hier avec Franz, moi, je lui parlais d'un sujet dont j'avais envie de discuter. Et puis, finalement, on s'est laissé emporter par le jeu des interviews. Et c'était super d'avoir tout ce monde pour démarrer. Donc, le sujet que j'avais envie de traiter, c'était autour de la justice restaurative, transformatrice. Voilà, donc tout ce qui est alternative... Enfin, dans ma tête, alternative à la prison. Donc ça, c'est plutôt des formes de justice qui viennent d'autres cultures que la nôtre. Et la principale mesure, c'est l'exclusion d'une personne, voilà, qui a commis une faute, quelque chose de contraire aux règles de la société. Et moi, j'ai connu ces thématiques-là et cette forme de justice-là par des milieux anarchistes et féministes. Et voilà, il y a en ce moment, ces derniers temps, il y a un peu des brochures. Alors, c'est souvent le média par excellence de ces milieux-là. Il y a un peu des brochures qui se répondent sur ces questions-là, autour notamment de la pratique du call-out. Donc c'est quelque chose qui définit le fait de diffuser largement et notamment en dehors d'un groupe restreint la dénonciation d'un fait et du coup d'une personne qui l'a commise, contrairement au call-in, voilà, où c'est à l'intérieur d'un groupe de... Et voilà, donc cette pratique-là, elle s'est construite depuis le développement de la deuxième vague féministe dans les années 70. Et ça, c'est une émission qui s'appelle Minuit décousu, qui est notamment diffusée sur Radio Canu, qui s'appelle Camarades violeurs. Qui explique pas mal l'historique de cette pratique et comment à la base les féministes avaient envie juste de que ça ne se reproduise plus. C'était pas spécialement pour exclure une personne, on demandait pas spécialement l'exclusion, c'était juste d'arrêter ces pratiques là et comment ça a été compliqué à l'intérieur des milieux militants de gérer ces choses-là, parce que bah, c'est des milieux qui sont abolitionnistes, qui sont contre la prison, contre l'enfermement, et où la lutte contre les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, ça a longtemps été relégué derrière la lutte contre l'État, contre le capitalisme, et du coup les féministes ont longtemps été accusées de faire le rôle de la police en jouant le jeu de l'exclusion de ces personnes, et comment c'était compliqué pour ces personnes-là. Il y a une brochure qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui s'appelle J'espère qu'on choisira l'amour, qui revient un peu là-dessus pour essayer d'en sortir et de dire attention, l'exclusion c'est pas une fin en soi, ça peut être délétère. Et il y a un collectif qui s'appelle Bagarre qui est sur Toulouse qui a ressorti une brochure qui pour moi est un peu une réponse à ça, qui s'appelle Ceci n'est pas un call-out, qui remet un peu les choses en perspective, de dire attendez, on n'est pas il faut arrêter d'inverser les rôles là. Oui, ça peut créer du dégât, l'exclusion, mais c'est pas toujours ça qui est demandé. Et puis en fait, si on veut sortir, on peut pas demander aux personnes de sortir du système pénal classique et carcéral, et en même temps de dire ah oui, mais ça aussi ça fait du mal à la personne. Oui, c'est sûr. Ça c'était une thématique que j'avais envie d'aborder. Et puis toi, Franz, comme par hasard, tu avais une émission toute prête là-dessus.
Alors non, moi c'était vraiment sur la question de la justice restauratrice ou réparatrice. Donc là, on est sur encore complètement autre chose, puisque c'est la possibilité pour les victimes de rencontrer les auteurs. Donc c'est qui est tout à fait, qui est accompagné par des associations. C'est comment on peut essayer. C'est bien un essai dont il s'agit, sur la base du volontariat complet. Il faut qu'il y ait que la personne autrice de la violence, par exemple, ou du crime ou du délit, soit d'accord, et surtout la victime aussi. D'ailleurs, en général, c'est plutôt la victime qui demande, parce que suite à une violence, on peut mettre une vie à s'en remettre, voire pas s'en remettre du tout. Et quelquefois, le fait de pouvoir échanger avec l'auteur ou l'autrice, d'ailleurs, ça peut aider, ça peut réparer plus que restaurer. Donc il y a un débat, le thème, l'adjectif n'est pas anodin, comme vous allez le voir effectivement dans cette interview qu'on a fait à Radio Saint-Ferréol. C'était le 24 mars, la matinale du mois, et donc on recevait Céline, qui est salariée de l'association Remède, qui est une association justement qui accompagne les victimes et les auteurs à essayer de se rencontrer. Dans le cadre, donc, ça elle va bien l'expliquer, dans le cadre d'une justice, d'une médiation, directe. C'est-à-dire que c'est l'auteur du délit et la victime concernée qui vont tenter de se rencontrer. Il y a toute une préparation avant. Il existe aussi une médiation indirecte, mais là qui est un peu plus connue, parce qu'il y a le film
Je verrai toujours vos visages.
Voilà, qui est sorti l'an dernier, ou il y a deux ans, je ne sais plus, sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, vous allez entendre parler de ce film quand même dans cette interview qu'on peut lancer maintenant. J'en profite pour saluer à nouveau Quentin de Radio d'ici qui est à la technique.
Juste avant, c'est un peu chapeauté par l'institution judiciaire quand même, ou alors c'est complètement en dehors, une personne victime vient voir cette association en disant il s'est passé ça, est-ce que c'est possible de tenter une médiation avec cette personne, ou il y a quand même une demande
Alors là, pour le coup, je pense qu'il faut je suis pas expert, mais il y a différentes associations en fait qui proposent ça, et que peut-être il y a différents types de scénarios, mais c'est pas du tout comme dans le film. Dans le film, là, c'est chapeauté en partie par l'institution judiciaire. C'est pas le cas ici, pas à ma connaissance. Mais bon, je pense que le mieux, c'est de réécouter l'interview qui va vous expliquer tout ça.
Et on se retrouve, ça sera ça sonne la fin de notre grâce matinale, enfin qui s'étend
au-delà de l'heure prévue, mais c'est pas grave.
Avec ce petit reportage, c'est super. Ensuite, il y aura donc une playlist musicale, et puis on se retrouve à 12h30 pour un grand entretien. Ensuite suivi encore d'une playlist musicale, et puis après ce sera à 14h30 un Central Park sur les Cras. Voilà, Eh bien, merci à toutes et à tous, auditeurs, auditrices de Radio D'ici. Merci à Quentin La Technique. Merci à toi, Franz. Et du coup, on écoute cette interview réalisée par tes soins.
On accueille maintenant dans les studios Céline Barré, médiatrice depuis 3 ans en justice restaurative ou réparatrice. C'est une nuance de taille sur laquelle on va revenir. Médiatrice donc pour l'association départementale d'aide aux victimes, Remède. Bonjour Céline.
Bonjour.
Et puis Lorraine qui est une victime qui a fait une demande de médiation pour des faits qui remontaient à 39 ans et qui a donc participé durant 1 an et demi à cette médiation assurée justement par Céline. Bonjour Lorraine.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Alors vous avez accepté donc du coup de raconter comment ça s'est passé, cette médiation, et ce que ça t'a apporté, surtout Lorraine. Mais peut-être ce serait intéressant et utile pour les auditeurs, auditrices, de revenir sur ce que c'est que la justice alors restaurative ou réparatrice. Céline, en quoi ça consiste exactement?
Alors la justice restaurative, en tout cas, c'est le terme qui est employé en France, qui est notamment, c'est le terme dans la loi. C'est Taubira qui, à peu près 10 ans, l'a inscrit dans la loi quand elle était ministre de la Justice. C'est un espace de dialogue entre auteurs et victimes, ou victimes indirectes aussi, les personnes proches des victimes, pour pouvoir dialoguer de manière sécurisée avec une tierce personne pour revenir sur les faits, pour revenir sur les répercussions et les conséquences de ce qui s'est passé, et aussi penser à un lien peut-être à reconstruire ou à réparer.
C'est une démarche qui a à peu près une dizaine d'années, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais, c'est une démarche qui a une dizaine d'années, qui est, alors, il faut se former pour faire de la justice restaurative. En tout cas, il y a l'Institut français de justice restaurative et l'ARCA, qui sont les deux structures qui forment à la justice restaurative. C'est surtout des personnes qui travaillent dans les centres pénitentiaires, les SPIP, la PJJ ou les associations d'aide aux victimes qui sont en premier lieu formés, mais qui ont souvent peu de temps aussi alloué à la justice restaurative. Et en tout cas, dans la Drôme, c'est l'association Remède, donc qui est l'association départementale d'aide aux victimes du réseau France Victimes, qui mène des médiations. Donc nous, on est une petite équipe de 7-8 personnes, dont la majorité sont des bénévoles formés par l'Institut français de justice restaurative.
Alors peut-être que les auditeurs auditrices ont entendu parler ou vu le film qui est sorti en 2023, une fiction de Jeanne Herry, mais évidemment très documentée, qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages », un film qui à l'époque était sorti à l'Éden, et c'est suite à le visionnage de ce film que Céline, tu t'es dit « ce sera mon prochain métier », c'est ce que tu m'expliquais juste avant l'émission.
C'est ça. Effectivement, quand j'ai vu ce film, je me suis dit c'est un outil génial et je me suis dit que ça allait être mon prochain métier. Et en fait, il y avait des bénévoles de Remède qui étaient là, donc j'ai appris qu'on pouvait faire la justice restaurative dans la Drôme. Et c'est comme ça que j'ai contacté Remède et que je suis devenue bénévole. Puis après, maintenant, je travaille pour eux. Alors à Remède, on fait surtout des médiations. Il y a différents types de médiations. Il y a les médiations directes, donc entre auteurs et victimes, où en fait on prépare les victimes et les auteurs à se rencontrer avec tout un travail de préparation, de scénarisation. C'est-à-dire on projette les deux personnes parallèlement, donc de manière confidentielle, dans la projection d'une rencontre. Alors c'est quand tu vas la revoir, la personne, qu'est-ce que ça va te faire? Quelle émotion ça va te créer? Si elle te dit ça, comment tu vas réagir? Si elle relativise ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu veux lui dire? Et au fur et à mesure, on prépare, on scénarise tout, vraiment petit pas à petit pas, donc c'est très long, ça peut prendre au minimum 6 mois, et en général c'est plutôt un an et demi de préparation, parce qu'on est dans 2 temporalités, 2 personnes, et voilà, et on les accompagne petit à petit de manière confidentielle. Donc c'est parfois aussi un peu frustrant parce que les 2 personnes ne savent pas ce qui se joue de l'autre côté. Pour l'autre personne, on a vraiment un enjeu de confidentialité, sinon ça biaise. On a une posture où on accompagne exactement de la même manière l'auteur que la victime, avec principe de non-jugement. On n'est pas la justice, hein. C'est vraiment un processus qui est parallèle à toute procédure judiciaire. Ça n'a pas d'impact sur la remise de peine, ça n'a pas d'impact sur quoi que ce soit dans le jugement. Donc c'est vraiment sur la libre adhésion des deux personnes. Les personnes peuvent arrêter à tout moment et on peut aussi ne pas aller jusqu'à la rencontre. La plupart du temps, on y va, mais petit à petit. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ne se sentent pas en capacité de rencontrer l'autre. Et donc, il y a d'autres modalités, des échanges de lettres, des échanges de textos, des visios, enfin voilà, d'autres manières, tout se construit avec les deux personnes, quoi.
Ça, c'est la médiation directe.
Ouais.
C'est pas celle qui est la plus représentée dans le film dont je parlais, Je verrai toujours au visage. On voit plutôt des médiations indirectes, c'est-à-dire que les victimes rencontrent des auteurs de délits, de crimes, d'agressions et ou autres, qui ne sont pas celles qu'elles ont subies directement, mais la même type de ouais. d'action, c'est ça?
Ouais, ça s'appelle des rencontres détenues ou condamnées victimes. Donc effectivement, c'est des groupes de parole avec des victimes, plusieurs auteurs, des médiateurs et des représentants de la communauté. Donc des personnes qui représentent la société qui est aussi là pour englober à la fois les victimes et les auteurs dans leur démarche. On n'en fait pas encore dans la Drôme, ça existe ailleurs, mais c'est un processus qui est très compliqué à mettre en place parce qu'il faut aussi accompagner individuellement chaque personne pour ensuite envisager des rencontres et être sûr que tout le monde est prêt dans cette démarche-là. Donc il y a ces rencontres-là. Vous avez aussi les rencontres indirectes, donc effectivement des auteurs et des victimes, mais qui ne se connaissent pas. Ça peut être juste des duos. Enfin, pour pouvoir, par exemple, moi j'ai une personne qui a demandé à rencontrer des victimes d'agressions sexuelles parce que cette personne avait commis cet acte-là et avait souhaité pouvoir dialoguer avec une personne pour comprendre les répercussions. Voilà, c'est ce type de situation.
Alors donc, on va rappeler quand même l'association pour laquelle tu travailles maintenant, qui s'appelle Remaid, R-E-M-A-I-D, donc c'est un acronyme. Je ne sais pas si c'est la peine de le détailler là, mais si jamais vous voulez, c'est autour de l'écoute et de la médiation, on va dire. Donc si vous voulez, auditeurs et auditrices, retrouver cette association, peut-être pourquoi pas devenir bénévole, ça s'appelle R-E-M-A-I-D, donc Remaid, et ça se trouve à Valence. Et il y a une grosse équipe bénévole à créer, donc est une ville
tout
de bénévoles.
Tout à fait, oui. Ouais, on mène à peu près une trentaine de médiations en ce moment, donc ça fait 60 personnes quand même à accompagner. La particularité de la justice restaurative, tu parlais de la différence entre réparatrice et restaurative. La justice restaurative, elle est conditionnée à une démarche judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut un dépôt de plainte, au moins un dépôt de plainte, pour pouvoir démarrer un processus de justice restaurative. Aussi parce que c'est un dispositif qui est gratuit, mais du coup on ferme la porte à de nombreuses victimes qui veulent pas ou ne peuvent pas porter plainte pour X ou Y raison et qu'elles sont même pas justifiées vis-à-vis de nous. Mais en tout cas, on peut, voilà, il y a un gros enjeu par rapport à ces victimes qui déposent pas plainte. Donc il y a d'autres structures type La Valise qui est basée à Toulouse, qui eux parlent de justice réparatrice pour voilà créer un peu aussi une différence entre la justice restaurative liée à un dépôt de plainte et qui peuvent aussi accompagner des victimes hors démarche judiciaire. Bon, après, donc du coup, il y a énormément de gens qui se tournent vers cette association-là. Il y a 2 mois et demi d'attente pour pouvoir commencer une mesure, quoi.
Merci Céline. Alors Lorraine, toi tu as fait cette démarche, tu as contacté l'association Remaid pour bénéficier d'une médiation,
oui.
D'une médiation suite à des faits qui remontent à 39 ans, je crois.
Oui, exactement, oui.
Voilà. Oui. Donc on peut le dire, il s'agit d'un homicide.
Oui.
Et toi, tu étais une personne très très proche de la personne qui a été tuée.
Oui, c'était ma sœur.
Voilà. Oui. Et suite à ça, les années ont passé. Et c'est peut-être déjà ça dont tu peux nous parler. C'est qu'est-ce qui t'a conduit à aller vers cette médiation depuis les faits. Comment t'as vécu toute cette période là de 39 ans finalement?
Alors 39 ans de ça paraît curieux, mais c'est 39 ans d'enfermement en ce qui me concerne, en ce qui concerne notre famille, parce que il y a 39 ans, on a reçu un choc, vraiment un trauma à l'annonce du décès de ma sœur. Il y a eu jugement, etc. Mais on s'est retrouvés sans mots, en fait, M-O-T-S. Alors les mots M-A-U-X, ils étaient nombreux, puisque en l'espace de 4 ans, ma marraine, mon père et ma mère ont pratiquement disparu. Enfin, pratiquement, ma mère a mis plus de temps, mais ils sont morts du fait du choc. Et puis on a continué la vie. Moi, il y a 39 ans, j'ai reçu l'annonce du décès de ma sœur. J'étais enceinte de 9 mois. Du coup, j'avais la vie à l'intérieur. Ça m'a sauvée. J'avais une famille très, très liée, un mari très, très gentil. Il y avait un entourage qui était correct, mais il n'y avait pas de mots. On n'a pas pu parler. Et 39 ans sont passés. Alors, je vous passe les psys, les problèmes intestinaux, etc. Et puis, moi également, tout d'un coup, ma fille m'a emmené voir un film qui s'appelait « Je verrai toujours vos visages ». Incroyable. Je l'ai vu une première fois. Ça m'a fait un choc extrêmement positif. C'est-à-dire que je me suis dit tout d'un coup, mais même dans tout mon corps, je me suis dit « Waouh, une porte peut s'ouvrir ». Je ne savais pas pourquoi, mais une porte peut s'ouvrir. Et puis, je l'ai vu une deuxième fois au Luxe à Valence. Et là, il y avait Remède qui expliquait. Et là, l'aventure a commencé. C'est-à-dire, j'ai osé, à la fin du film, quand il n'y avait plus personne, j'ai osé m'approcher d'Edouard en question. Je lui ai demandé si même après 39 ans, on pouvait faire quelque chose parce que j'avais vraiment besoin.
Edouard qui était donc coordinateur de l'association
à cette époque-là. Tout à fait, oui. Et il m'a dit oui, bien sûr, il m'a donné la carte de visite. Là, j'ai éclaté en sanglots, je me suis dit, oula, ça va être dur. Et j'ai mis du temps avant de téléphoner à Remède, à Edouard, précisément. Je crois que j'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai tourné autour de mon téléphone, et puis ouais, j'y suis arrivée. Et là, les mots ont commencé à avoir de la valeur. Il y a eu de la bienveillance, il y a eu du temps. La notion du temps n'est pas la même, en fait.
C'est à ce moment-là, du coup, que tu as travaillé avec Céline, tu as rencontré Céline.
Alors au début, c'était que Edouard, et puis après Céline est arrivée, et puis après Edouard est parti et Céline est venue. Il y a beaucoup d'espoir quand on contacte la justice. Alors moi, je dis réparatrice, parce que restauratrice, ça me dérangeait un petit peu, mais réparatrice, oui, il y a une réparation.
Et pourquoi ça te dérangeait ?
Parce que restaurer quelque chose, moi j'étais restauratrice de patrimoine écrit, et restaurer quelque chose, c'est se remettre dans la même situation, essayer d'être à l'identique, au pastiche. J'avais pas du tout envie de revenir en arrière, j'avais envie de voir de l'avant. Parce que depuis le début, les mots ayant été muselés complètement après le procès, j'avais rien entendu, j'avais vu la personne qui avait acté le décès de ma sœur, mais il y avait quelque chose qui manquait, vraiment il y avait un manque. Il n'y avait pas de communication. Alors, peut-être que tout de suite, je n'aurais pas pu, mais le premier mot, la première phrase qui m'est venue quand j'ai appris que ma sœur avait été tuée, c'est, on me dit, quelqu'un a tué ta sœur. D'abord, c'est extrêmement violent, cette annonce-là. Et j'ai tout de suite répondu, je m'en souviens très bien, j'ai tout de suite répondu, mais où est la personne? Où est-ce qu'elle est? Évidemment, je ne pouvais pas communiquer avec elle. Et j'avais cette envie de dire, mais il faut que je la voie. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Pourquoi? La justice ne m'a pas apporté. Les 3 jours de procès ne m'ont pas apporté de réponse.
On peut préciser qu'à l'époque, évidemment, une démarche comme proposée aujourd'hui par l'association Remède n'existait absolument pas.
Ça n'existait pas et c'est dramatique que ça n'existe pas, en fait. Parce qu'on a besoin, les deux familles, les deux, que ce soit les deux familles ont besoin de se lier dans la détresse, dans la douleur, dans ce trauma. Il y a besoin de paroles. Moi, j'en suis convaincue. Et Remède apporte ça. La justice réparatrice apporte la parole, déclenche la parole. Elle est gelée. Elle est complètement congelée, la parole.
Tu dis les deux familles parce qu'il y a un trauma aussi dans la famille de l'agresseur, en l'occurrence, qui est
Mais l'agresseur, la famille, oui, certainement, oui, et l'agresseur aussi est choqué. On a un trauma des deux côtés. Moi, je pars du principe que l'homme est bon par nature. Alors, Rousseau l'a dit aussi, mais sous une autre forme. Moi, je pense que la part intacte de l'humain, elle existe. Un nouveau-né qui arrive, il n'est pas là en train d'arracher le téton de sa mère pour lui dire « dis donc, t'as 5 minutes de retard ». Il est ouvert. Et je crois que cette partie-là, c'est la part intacte. Et tout individu, quel qu'il soit, alors c'est dur, hein, si on attaque un de mes enfants, ce qui a déjà eu lieu, il faut respirer avant de dire « ok, je veux rencontrer cette personne ». Mais c'est indispensable, je pense.
Et pour revenir sur cette médiation et sur les faits, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu faire à l'époque?
Alors,
pourquoi avoir attendu 39 ans? Qu'est-ce qui a déclenché? Enfin, bon, il y a le film qui a déclenché finalement.
Le film a déclenché. Je savais pas que ça pouvait exister. Je cherchais comment. J'avais demandé à l'avocat de la partie opposée qu'est-ce que je pouvais faire pour contacter la personne. Mmh. Et on m'avait répondu que c'était interdit.
D'accord.
Interdit. Bon. Mais vraiment, c'est une porte blindée, hein, après l'acte. C'est une porte blindée. C'est pas bon. C'est pas bon psychologiquement pour tout le monde.
Et alors concrètement, comment ça s'est passé? Quelles sont les étapes d'une médiation comme celle-ci? Céline, peut-être, tu veux rebondir sur ce qu'on a entendu du témoignage de Lorraine?
Oui, bah les étapes, en tout cas, c'est donc un temps aussi où on explique à la personne qui fait la démarche de justice restaurative. Parce que voilà, les différentes étapes, ce que ça va impliquer, l'enjeu de la temporalité, parce que c'est vraiment sur un temps long. Aussi, expliquer à la personne que l'autre en face peut aussi dire non, que ce soit pour une rencontre ou pour rentrer dans la mesure, et qu'il va falloir aussi se préparer à ça. Et après, il y a tout un temps de préparation, d'écrire la demande.
Ah oui.
Que nous, on va aller porter en tant que médiateur, médiatrice, enfin, ou animateur, animatrice en justice restaurative, qu'on va aller porter à l'autre personne. Et l'idée, c'est que c'est vraiment une demande écrite. Pour que nous, on ne déforme pas, on ne va pas arriver en disant « Bon, alors, un tel a dit que... » ça, c'est... En fait, nous, on ne reformule pas, on ne suggère rien. C'est vraiment un espace. Alors, parfois, ça crée de l'incompréhension de « Mais aidez-nous, on y va ensemble. » Et en fait, nous, on a vraiment une posture de « C'est votre chemin. » Et on n'a pas à influencer s'il faut aller à droite ou à gauche. Quoi. Donc,
à la fin, chaque entretien mené, ouais, avec la personne, que ce soit... la victime ou l'auteur de l'acte, finit par un écrit.
Alors, pas à chaque fois, mais en tout cas, la personne qui fait une demande de justice restaurative, il faut qu'elle l'écrive. Et nous, on va aller porter cette demande à l'autre personne. Et d'accord. Là, dans la situation de Lorraine, on a mis du temps à écrire cette lettre-là. Et une fois que Lorraine était prête, était OK avec les mots, avec nous a remis ces mots. Et nous, enfin, et moi, en l'occurrence, j'ai pris contact avec l'autre personne. Je lui ai envoyé un courrier d'abord pour la prévenir que j'allais l'appeler, parce que aussi ça crée une onde de choc, hein, aussi pour l'autre personne, oui. Parce que là c'était 39 ans aussi pour l'autre personne qui n'en avait pas reparlé, qui avait eu un processus aussi de prison, enfin voilà, donc de honte, de culpabilité.
Et qui donc, était évidemment sorti de prison depuis longtemps.
Oui, qui était sorti
qui
de prison.
Qui menait une vie sans doute depuis.
Ouais. Et donc une personne l'appelle et lui dit bonjour, justice restaurative, proposition de médiation avec la sœur de la personne, voilà. Et donc ça a été très difficile aussi pour l'autre personne d'ouvrir cette porte. Ça a été un long processus. Moi, je parle d'apprivoisement, enfin vraiment, parce que il faut. L'idée, c'est pas d'aller convaincre l'autre de rentrer dans ce processus-là, mais de voilà laisser cette porte ouverte, et quand la personne elle est prête, et ben elle rentre petit à petit. Et ça a marché en
tout
cas.
Ça a marché.
Alors ça a marché, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, Lorraine?
Alors c'est pas facile à exprimer avec des mots, mais ça a marché. Le lien a pu se faire. Alors, je n'ai pas pu rencontrer la personne parce que, et je comprends, c'est très très dur pour elle, mais les mots ont été partagés. Moi, j'ai demandé à poser des questions. L'autorisation de son côté a été très belle. C'est une autorisation. Alors, je vais pas dire pleine de tendresse, mais on a senti réciproquement quelque chose qui s'est tissé entre nous. Je mets de côté l'amour que j'ai pour ma sœur, qui ne sera jamais abîmée. C'est un autre plan. On arrive là dans un autre plan, une autre sphère de communication. C'est dans le désir d'aller vers l'autre. Je pense que nos mots partagés nous ont permis de nous rencontrer, même si physiquement ça n'a pas pu se faire pour l'instant. Peut-être qu'un jour. Rien n'est coupé, rien n'est arrêté. C'est pas facile à expliquer, mais il y a eu une sorte de fluide. Ah bon, il y a des larmes, il y a des angoisses, parce que moi-même j'ai refait des cauchemars. Mais c'est pas du même ordre qu'avant. C'est c'est un partage qui se fait, en fait. Ah, vraiment.
Et vous avez le sentiment, tu as le sentiment, Lorraine, que c'était quelque chose qui, donc, toi, t'as fait avancer?
Oui, alors ça m'a fait avancer parce que c'était un peu sclérosé. L'histoire était sclérosée dans notre famille. Mes quatre enfants, même les petits-enfants qui n'osaient pas poser des questions. Et là, maintenant, je peux leur répondre clairement, leur raconter, leur parler d'une personne qui comme tout le monde, on peut tous péter un câble à un moment donné. Bon, c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout, mais les circonstances font que ça arrive, ça peut arriver pour chacun. Donc c'est, j'apprends là, mes petits-enfants, le fait que ben, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut parler, il faut partager. Et c'est ce qui s'est passé avec cette personne.
Céline ?
Ouais, et ce qui s'est passé dans votre démarche à vous, c'est que vous vous êtes échangé des lettres pendant plusieurs mois. Enfin, donc moi, j'avais ce rôle avec Edouard quand il était encore là, de porter la lettre, les questions oui. que toi, tu avais... posé par écrit, donc nous, voilà, on allait porter la voix de Lorraine et les questions de Lorraine à l'autre personne. C'était des questions très directes, hein, où nous, on avait aussi un peu d'appréhension pour la sécurité de l'autre personne, de savoir est-ce qu'on allait recréer du trauma aussi chez elle. Mmh. Et vu que nous, notre posture, c'est d'accompagner, enfin, de sécuriser les deux personnes, il y avait quand même un enjeu. Et en fait, ça a permis aussi pour cette personne de libérer sa propre parole. Et là, c'était expliquer ce qui s'était passé, l'acte, la situation, mais pas face à un juge, pas face à une cour, mais face à la sœur de la victime. Et voilà, elle exprimait que ben, ça faisait 39 ans qu'elle n'en avait pas parlé, quoi. Et que c'était la première fois de sa vie qu'elle pouvait donner son point de vue sur ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle estimait aussi avoir une situation injuste. Elle n'a jamais excusé son acte, elle n'a jamais justifié son acte, mais en tout cas, elle a pu enfin exprimer le contexte dans lequel ça s'est passé. Et je pense que ça, pour les auteurs, parce qu'on voilà, il y a toute une un avis où les auteurs faut qu'ils ferment leur gueule, mais en fait non, les auteurs faut aussi qu'ils parlent oui. parce que ça permet aux victimes ou aux proches des victimes de comprendre ce qui s'est passé. Ça veut pas dire qu'on va les pardonner. Il y a très peu de réflexion autour du pardon dans la justice restaurative. On vient s'expliquer et l'intermédiaire, c'est pas la justice, une cour d'assises, un tribunal, des juges, c'est les deux personnes qui sont liées par la même histoire et qui ont besoin parfois de se repositionner, notamment pour les violences sexuelles, les victimes ont besoin aussi de se repositionner par rapport à leurs auteurs, mais voilà, d'avoir un espace de dialogue. Et il y en a tellement peu. Les victimes, quand elles sortent de procès, ce que tu disais, enfin, il y a tellement une frustration, une incompréhension. Enfin, c'est technique, et puis il y a peu de place pour les victimes. Et là, cet endroit-là, bah, c'est un espace où la victime peut s'exprimer, l'auteur peut entendre, l'auteur peut aussi pouvoir s'exprimer sur, s'il a des choses à dire, et en général, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Et la victime est souvent prête aussi à entendre ce qui se passe. Enfin, voilà.
Donc, prête, oui. Bah, grâce à ce processus que vous mettez en place aussi.
Ouais, ouais. Oui, parce que pendant des années, il y a des images. Et ces images-là, souvent, elles sont transformées, elles sont créées, elles sont des non-dits qui se sont transformés en images d'horreur. Et celles-ci, j'en voulais plus, je voulais les vraies. D'où certaines questions un peu difficiles à entendre, mais elle m'avait autorisé à dire pose la question, pose toutes les questions que tu veux. Et déjà là, il y a presque de la tendresse qui s'installe dans la relation humaine. Voilà, il y a un lien.
Bah, merci beaucoup Lorraine et Céline d'être venues témoigner de cette médiation en justice restaurative et on peut dire réparatrice, en tout cas dans ton cas.
Oui.
Et ben voilà, donc si vous voulez vous rapprocher de l'association Remaid, REMAID, c'est possible, ici même à Cré et à Valence.